accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Emmanuel Macron has defied convention. His supporters at their Paris party were ecstatic. Marine Le Pen has defied her critics too.
Bonjour à tous. Si les Français sont un peu à cran avant le second tour de l'élection présidentielle, à l'étranger, on observe également de très près la campagne des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au Royaume-Uni, on suit les élections françaises avec intérêt et fébrilité, car le ou la future chef de l'État aura une grande influence sur le ton et la conduite des négociations menant au Brexit. Précision de Marie Billon.
Qui serait le meilleur ami ou le pire ennemi du Brexit? À première vue, cela paraît simple. Marine Le Pen, l'eurosceptique, qui jusqu'à récemment se prononçait en faveur d'un Frexit, la sortie de la France de l'UE. La candidate d'extrême droite qui veut entamer des négociations avec les Européens, comme l'a fait avant elle, David Cameron, semble être une alliée modèle. Elle admire la décision des Britanniques. Cela montre qu'on peut trouver les clés de cette prison qu'est l'Europe, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la radio LBC. Quant à Emmanuel Macron, qui n'a cessé de réitérer son attachement à l'Europe tout au long de sa campagne, il estime que la sortie de l'Union européenne est une erreur qui aura des conséquences pour les Britanniques. Le Royaume-Uni ne doit pas espérer avoir le meilleur des deux mondes. Mais en fait, les choses ne sont pas aussi simples. Marine Le Pen ne serait pas un cadeau pour les pro-Brexit. Au mieux, elle rendrait caduque une grande partie des préparatifs britanniques. Au pire, elle court-circuiterait tout en tirant la couverture à elle. Elle affaiblirait le couple franco-allemand. Comment ferait Bruxelles pour négocier sereinement avec Londres si sur son flanc, Paris essaie en même temps de détruire l'UE, se demande le député libéral-démocrate Tom Brake. Et devant la perspective d'un référendum sur le Frexit, Bruxelles aurait encore moins intérêt à faire des concessions aux Britanniques. Il faudrait un Brexit le plus punitif possible pour faire passer l'envie de sortir aux Français. Emmanuel Macron, lui, en revanche, représente la possibilité d'un deal décent, selon le député conservateur Crispin Blunt. C'est un homme qui s'y connaît en économie et qui sait qu'affaiblir un partenaire serait mauvais pour l'ensemble de l'UE, estime de nombreux commentateurs. Les libéraux-démocrates ont aussi confiance en celui qu'ils soutiennent ouvertement depuis longtemps. Le candidat d'En Marche veut une relation positive avec le Royaume-Uni et, estime-t-il, ça ne s'obtient pas en se fâchant.
Da non credo che sia facile dietro le Ben Marchon, ma spero che sia facile dietro Macron e qualcun altro. E in entrambi.
En Italie aussi, Emmanuel Macron a de fidèles partisans, à commencer par l'ancien président du Conseil italien. Matteo Renzi vient de remporter triomphalement les primaires de son parti et soutient sans réserve le candidat d'En Marche. Les précisions à Rome d'Olivier Bonnel.
Après son arrivée au pouvoir en février 2014, Matteo Renzi ne cachait pas sa fascination pour le célèbre « Yes We Can » de Barack Obama. C'est désormais le « En Marche » d'Emmanuel Macron qui lui redonne des ailes. Depuis quelques semaines, l'ancien président du Conseil italien est élu à 39 ans, l'âge d'Emmanuel Macron, ne cesse de regarder avec gourmandise de l'autre côté des Alpes. En mars, il a créé le mouvement In Camino 2017, directement inspiré de celui d'Emmanuel Macron. Plus de 200 000 personnes ont rejoint la page Facebook du mouvement, qui se veut une boîte à idées pour tous les partisans d'une Europe dynamique contre les populismes. Renzi et Macron semblent avoir noué une idylle, au moins sur les réseaux sociaux. Son triomphe aux primaires du Parti démocrate, où il a raflé 70% des votes, a été salué par le candidat d'En Marche. « Merci cher Emmanuel, nous sommes avec toi, vive la France, vive l'Europe », a répondu le Florentin sur son compte Twitter. Chez certains proches de Renzi, une possible victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai pourrait précipiter des élections anticipées en Italie, que l'élection en France d'un pro-européen conforterait la dynamique actuelle du leader du Parti démocrate. Une victoire de Macron pourrait donner beaucoup de force à ceux qui veulent changer l'Europe, a d'ailleurs commenté l'ancien président du Conseil italien. Une véritable cure de jouvence pour celui qui, il y a 5 mois, quittait le gouvernement.
Aus Deutschland und Frank.
Gänsliche Kehl und Stroßbrühe. Da baut man Brügge.
Es gibt auch Apps zum Essen und zum Trinken.
Aus Deutschland.
A priori, rien à voir avec l'élection présidentielle. Et pourtant, entre les deux tours, l'inauguration en grande pompe il y a une semaine d'un tramway entre Strasbourg en France et Kehl en Allemagne a pris une dimension très symbolique. Il aura en tout cas fallu un traité Paris-Berlin, un nouveau pont sur le Rhin et des mois de travaux pour faire voyager près de 9000 passagers par jour. C'est un reportage d'Aude Razo.
Dès le premier jour, l'engouement pour ce tramway transfrontalier est énorme. Pour embarquer côté Strasbourg, il faut se serrer un peu.
Oui, il y a même trop de monde.
Se serrer beaucoup même. Les rames sont bondées. Une fois sur le pont, sur le Rhin, on joue des coudes pour tenter d'apercevoir quelque chose.
C'est superbe, c'est fantastique. Hein. Moi, j'adore déjà la perspective qu'on a tout le long du Rhin. C'est magnifique, le Rhin est magnifique. Hein.
À la sortie, et toutes les 10 minutes, ce sont des vagues de Strasbourgeois qui se déversent côté allemand, qui se déversent sur Kehl.
C'est mieux que de le faire en voiture. On n'a pas ce stress de la circulation, donc c'est effectivement plus agréable.
Ah oui, c'est parfait, c'est parfait.
Parfait aussi pour ces Alsaciens qui veulent acheter des cigarettes ou des produits ménagers moins chers. Pendant tout un week-end, ce sont des dizaines de milliers de Français et d'Allemands qui ont fait la fête tout au long de cette ligne de tram.
C'est plus une frontière, on va de Strasbourg à Kehl. Ça deviendra une habitude de fréquenter ce parcours-là.
Il faut être franco-allemand, hein. C'est une grande force ça.
C'est historique, non ? C'est deux pays qui ont une histoire quand même commune et qui se trouvent aujourd'hui ensemble à traverser le pont.
Réaffirmer l'Europe en une réalisation concrète franco-allemande, c'est très bien.
Ces passagers ne s'y trompent pas. Ici, on parle de coopération. Ici, on parle d'Europe. Quelques heures avant, pendant l'inauguration, ce n'est d'ailleurs pas l'hymne français qui a retenti. Ce n'est pas non plus l'hymne allemand. C'est l'hymne européen. Pour l'occasion, le numéro 2 de la chancellerie allemande, Peter Altmaier, avait fait le déplacement. Il a livré un discours enflammé, un discours très politique.
L'Union européenne, malgré tous les problèmes, malgré le bureaucratisme qui existe comme à Berlin et à Paris et à Londres et partout, mais l'Union européenne, l'idée de coopérer, c'est la meilleure chose qui est arrivée aux peuples européens depuis 300 ans. Et il faut...
En plein entre-deux-tours de l'élection présidentielle française, le message est clair. Peter Altmaier se fait encore plus clair au micro des journalistes.
Aujourd'hui, où l'Europe est contestée, il est plus important que jamais de donner des signaux forts. Et les gens qui habitent dans les régions transfrontalières, ils savent très très bien la valeur et l'importance de l'Europe et le principe, ce sont des frontières ouvertes pour nous tous.
Mais derrière le symbole se posent des questions plus concrètes, celles des frontières, justement celles des contrôles. Roland Ries, le maire de Strasbourg, se veut rassurant.
Après tout, le TGV, il traverse la frontière et il y a les trains qui traversent la frontière. Donc ce sont des dispositions à prendre, de temps en temps des contrôles à l'intérieur du tramway probablement. Ce sera assez classique, ce qui se pratique dès aujourd'hui pour les trains ou les TGV.
Et pour Roland Ries, comme pour les 400 officiels qui ont fait le déplacement, ce tram c'est avant tout le meilleur moyen de lutter contre les anti-européens, contre les anti-espace Schengen.
C'est l'Europe du quotidien, l'Europe de la vie quotidienne, et c'est probablement ce qui aujourd'hui manque le plus. Un sentiment d'appartenance européen. Et ici, à Strasbourg-Kehl et dans l'Eurodistrict, on est un peu en laboratoire de ce point de vue.
Côté fête, pendant plusieurs jours, Allemands et Français ont pu admirer sur le parvis de la gare de Kehl une vieille locomotive. Elle a salué l'arrivée du tram à sa manière. Là encore, on parle de symbole, le symbole de la fin d'une guerre. Cette locomotive, elle date de la fin du 19e siècle. À l'époque, l'Alsace est allemande et la locomotive franchit déjà le Rhin entre Strasbourg et Kehl.
C'est un des tramways de l'époque.
De quoi susciter l'étonnement des Strasbourgeois d'aujourd'hui.
Ici, nous avons devant nous une représentation des carnes des lignes de 1913 et d'aujourd'hui, 2017. Le tramway d'alors allait nettement plus loin que le tram d'aujourd'hui.
Le premier trajet en tram Strasbourg-Kehl remonte en fait à 1897. La ligne sera maintenue jusqu'en 1918, interrompue sous l'Alsace française, relancée sous la période nazie de 1942 à 1944. Et puis plus rien jusqu'à cette année 2017. 73 ans plus tard, le tramway franchit de nouveau le Rhin et cette fois aussi une frontière, comme le symbole d'une guerre enterré, le symbole d'une amitié entre deux pays.
Un tramway sur le Rhin, reportage signé Aude Razeau.
La nuit tombe sur l'Europe. Au pied de la falaise, la mer Égée. Et en face, si proche, à moins de 7 km, la Grèce, l'Europe. Une Europe qui a fermé ses frontières, abandonnant les exilés aux dangers de la mer et des routes clandestines. Combien de blessés encore ? Combien de morts ?
La voix de Catherine Deneuve pour accompagner le film du documentariste et photographe Samuel Bollendorf. La nuit tombe sur l'Europe, c'est le titre de ce film, mais aussi d'une exposition de photos qui se tient à Paris, dans un lieu particulièrement passant, sous la canopée du Forum des Halles. C'est Amnesty International qui a demandé à Samuel Bollendorf de raconter en images la violence endurée par les réfugiés sur leur route vers l'Europe. Une exposition qui, espère Samuel Bollendorf, permettra de réveiller les consciences. Frédéric Lebel l'a retrouvé sous la canopée.
Pour moi, c'est vraiment une réaction citoyenne, c'est-à-dire que je suis un citoyen européen et quand je vois la façon dont on traite ces individus, ces destins, ces exilés, j'ai l'impression que l'Europe manque à ses devoirs fondamentaux d'accueil, de refuge. Et là, en tant que citoyen, je suis choqué, je ne retrouve pas l'Europe dans laquelle je crois. Hein.
Vous avez d'ailleurs intitulé votre travail « La nuit tombe sur l'Europe », c'est aussi l'histoire d'un grand vide. On parle très peu de ces réfugiés, y compris pendant cette campagne électorale.
C'est un titre qui a ce sens premier, puis c'est aussi la peur d'un réveil un matin brun, quoi. Et ça, c'est la vraie question. On le voit encore dans ces élections, de ce risque qui pointe, quoi. Et ça, c'est terrifiant.
Et la nuit, tout à fait concrètement, c'est souvent la nuit qu'ont lieu les passages depuis la côte turque vers la Grèce. Et la première des photos, en fait, vous avez pris des objets qui restent.
Oui, je me suis retrouvée dans une de ces espèces de maisons qui semble jamais devoir être terminée en béton, dans laquelle il y avait des couches usagées, des briques de lévite, des pulls d'enfants, des morceaux de carton sur lesquels les gens avaient dormi. C'était vraiment les traces de cette attente de femmes, d'enfants, d'hommes, de familles entières qui attendaient leur passage. Des passages qui sont payés 1 500 $ par personne auprès des passeurs et qui les forcent à embarquer au milieu des rochers, la nuit, effectivement, dans le ressac, dans une mer démontée. Et je voyais ce tableau et je me suis dit, mais c'est terrible de s'imaginer soi-même dans de telles conditions, d'avoir embarqué sur un canot gonflable, surbondé, dans des conditions aussi effroyables. Et voilà, je me suis dit que c'était aussi là-dessus qu'il fallait travailler.
Ouais, on va parcourir un petit peu avec vous cette exposition. Il y a une image qui est frappante dans cette exposition, c'est cette image des gilets de sauvetage.
Oui, il y a ces gilets de sauvetage. Je me suis retrouvé à Lesbos dans une décharge de ces gilets de sauvetage. C'est des montagnes, hein, c'est 5 mètres de profondeur de gilets abandonnés, mais qui, en plus, pour une grande partie, sont des faux gilets de sauvetage. C'est-à-dire qu'il y a tout un commerce en Turquie de gilets de sauvetage qui ne font pas flotter, qui font couler quand ils se gorgent d'eau et qui sont vendus aux familles en détresse qui tentent leur traversée. Et donc on peut imaginer combien d'enfants, de femmes et d'hommes se sont noyés croyant qu'ils étaient protégés par un gilet. Et ça c'est terrible, mais on arrive à des tels degrés d'inhumanité dans le traitement de ces destins tragiques, c'en est absolument choquant, quoi.
Alors de l'autre côté du panneau, vous avez photographié dans une île grecque, un cimetière, et là, il y a des plaques funéraires. Mais...
Oui, il y a des plaques funéraires, mais ce que me racontait le gardien du cimetière, c'est que la plupart des gens qu'ils enterrent sont des gens inconnus, donc ils n'ont pas de nom. Donc je me souviens de ce gardien qui égrenait comme ça la litanie des plaques funéraires. 25 août 2015, pas de nom. 4 septembre 2015, pas de nom. 9 septembre 2015, pas de nom. 30 septembre 2015, pas de nom. Un bébé. 30 septembre 2015, pas de nom. Toute une famille. 2 octobre 2015, pas de nom. 13 octobre 2015, beaucoup de bébés aussi.
Il y a beaucoup de barbelés dans vos photos. Il y a même un mirador avec des résonances assez terribles.
Oui, c'est aussi malheureusement finalement un travail sur l'Europe, sur une Europe qui se barricade derrière des frontières, derrière des barbelés à lame, qui vote des lois autorisant des militaires à tirer sur les réfugiés à balles réelles. C'est une Europe dont les polices, qu'elles soient hongroises ou françaises, maltraitent les réfugiés, les gazent avec des bombes lacrymogènes, les tabassent dans des camions. Les rapports des ONG sur les lésions que subissent les réfugiés sont accablants. Même le défenseur des droits, qui est quand même une haute autorité en France, pointent du doigt les violences de la police française. Enfin, tous ces gens qui tentent de trouver refuge sur leur chemin d'exil dans de telles conditions, livrés aux passeurs, livrés aux dangers de la mer, des trains, etc. C'est un scandale, quoi. C'est encore une fois, on pourrait faire passer les gens avec des ferries, avec des trains, et décider après de savoir si on leur donne l'asile ou pas. Mais pourquoi les laisser prendre tant de risques?
Et exposé ici, au cœur de Paris, sous la canopée, dans une des gares qui est la plus fréquentée de France, c'est important.
Ah bah c'est fondamental. Là, pour le coup, c'est un vrai choix, hein, de ne surtout pas installer cette exposition dans un lieu institutionnel de photographie où on aurait eu pour public soit des gens qui s'intéressaient à mon travail, soit des gens qui étaient déjà acquis à la cause des réfugiés. Ici, on va atteindre 100 000 visiteurs qui ne sont pas venus pour voir cette exposition, mais qui l'auront reçue, qui auront été touchés. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment un hub francilien. C'est un endroit où... effectivement, où on déverse tout le RER, tous les gens qui viennent faire des courses aux Halles, et pour ça, c'est un public fantastique.
Samuel Bollendorf, auteur de l'exposition « La nuit tombe sur l'Europe » à découvrir jusqu'au 11 mai. Bonjour Vincent Thébal.
Bonjour Laurent.
Pour votre chronique musique d'entre deux tours, le vieil adage se vérifie, la musique adoucit bien les mœurs.
En cette période un peu tendue et anxiogène, je vous propose de la douceur avec la pop rayonnante de Soleil. Cette Islandaise, qui est maintenant presque une habituée d'Accent d'Europe, et qui publie aujourd'hui son troisième album solo. Elle a fait ses premiers pas en groupe, au milieu des années 2000, avec le collectif Cyber, qu'elle illuminait de ses chœurs et de son jeu de piano, une partie seulement de ses talents, puisque Soleil a fréquenté l'Icelandic Art Academy, où elle a étudié la composition et la guitare. Depuis quelques années, la musicienne alterne des projets assez différents, avec notamment un recueil de ses compositions au piano, écrites pour le théâtre ou le cinéma, comme une respiration entre deux albums de chansons plus classiques, même si le mot ne convient sans doute pas à ces petites merveilles poétiques, inventives et tintinabulantes, son nouvel album s'intitule « Endless Summer », un été sans fin. On ne pouvait rêver meilleur titre.
Un extrait du dernier album de Soleil pour refermer cette dernière édition de la semaine d'Accent d'Europe, réalisée par Françoise Grelot. On se retrouve lundi dès 17h40 en universel.